en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. L'importance d'un artiste, écrivait Henri Matisse, se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique. De fait, c'est un grand novateur, un inlassable chercheur, un enrichisseur de techniques que le Centre Georges Pompidou nous propose de découvrir ou de redécouvrir à travers une grande rétrospective 150 ans après sa naissance. Plus de 230 œuvres, 70 documents et archives nous font cheminer entre peinture, dessin et sculpture, entre les mots et les signes, entre les couleurs et les lumières, sur plus de 6 décennies de 1890 à 1954. L'exposition Matisse comme un roman, c'est à Paris jusqu'au 22 février et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Aurélie Verdier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la commissaire de cette exposition au Centre Georges Pompidou. Pourquoi l'avoir intitulée ainsi, Matisse comme un roman ?
Eh bien, je suppose que j'avais besoin d'une trame narrative, que j'avais envie de raconter une histoire, qui était l'histoire d'une œuvre, l'histoire d'un homme qui était Henri Matisse et qui est très simplement l'un des très 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 grands artistes du XXe siècle. Et ce roman m'a permis, je crois, de dérouler ce fil.
Oui, parce que c'est aussi une référence à Aragon, hein, dont la présence tutélaire plane en quelque sorte sur le parcours, qui a écrit et publié en 1971 Henri Matisse. Roman, l'idée c'est donc de cheminer comme ça dans la vie et dans l'œuvre de Matisse à travers justement le regard de gens qui écrivent, d'écrivains, de critiques aussi.
C'est en effet à différents auteurs que j'ai confié le soin en quelque sorte de dérouler ces chapitres. Alors Aragon, Louis Aragon, dont l'ouvrage que vous citiez en effet a guidé un peu les premiers pas de cette exposition, est un peu l'ombre tutélaire de cette rétrospective. Aragon ouvre et ferme l'exposition avec l'un des nombreux textes qui composent Henri Matisse roman. Matisse a la parole aussi parce qu'il est l'un des commentateurs les plus aigus, les plus lucides sur son œuvre.
Oui, c'était important pour lui d'expliquer ce qu'il voulait faire, d'expliquer ses changements, d'expliquer ses recherches, de partager.
Inlassablement, absolument. Il a peu pris la plume. À des moments très ponctuels, il la prend. Il est tout à fait aigu, comme je le disais. Néanmoins, il n'a pas dédaigné les entretiens. Donc, il a confié sa parole. Il a confié le soin à d'autres de transcrire sa parole.
Donc, il y a effectivement les mots d'Aragon, les mots de Matisse, et puis l'exposition est séquencée en 9 chapitres avec en épigraphe donc les mots de ses écrivains, de ses critiques sur l'œuvre de Matisse. Et la première salle, Aurélie Verdier, pose d'emblée une question, dans le sillage d'Aragon d'ailleurs, où marquer le commencement? Et c'est vrai que là, déjà, première source d'étonnement, on est étonné d'un bout à l'autre de cette exposition, je vous le cache pas, première source d'étonnement, c'est vrai que Matisse a commencé à peindre assez tard.
Oui, tout à fait. C'est un tard venu à la peinture. Comme dit très très joliment le poète Dominique Fourcade, spécialiste de Matisse, rien ne lui est facile dès les débuts. Et effectivement, je voulais commencer par une question qui est posée par Louis Aragon dans ce livre merveilleux, Henri Matisse roman, parce qu'on ne sait pas très bien où ça commence en fait. Effectivement,
donc 1890, c'est à peu près la date
oui,
charnière.
Oui, à peu près, avec une anecdote fondatrice qui est que Matisse, convalescent d'une opération, se voit offrir une boîte de peinture par sa mère et se découvre en fait enfin une raison d'être, lui qui s'ennuyait dans son métier de clerc d'avoué, puisqu'il avait déjà un métier. Donc c'est vraiment intervenu à la peinture, il a déjà une vingtaine d'années et c'est fondateur.
Alors en 1891, il entre à l'Académie Julian, ensuite à l'atelier de Gustave Moreau aux Beaux-Arts. On peut dire que Gustave Moreau est en quelque sorte son maître en peinture.
Oui, tout à fait. C'est le moment le plus important après avoir en effet passé un petit peu de temps chez Bouguereau, mais l'académisme de ce maître ne lui convient absolument pas. C'est trop rigide. En revanche, on dira de Moreau, il dira très joliment qu'il lui donnera le don de l'inquiétude. Donc précisément, il a les questions commencent avec Moreau. On sait la phrase célèbre de Gustave Moreau, ce peintre symboliste qui donnait beaucoup de liberté d'ailleurs à ses étudiants. Vous allez simplifier la peinture, prédit-il à Matisse. Et Aragon lui répond, et je le cite dans cette première salle en fait, il n'est pas certain que Moreau ait eu raison, peut-être a-t-il compliqué le la question de la peinture. Oui. Les deux sont vrais.
Et c'est vrai que tout un ensemble de questions assaillent effectivement le visiteur tout au long de sa visite, comme elles ont sans doute aussi assailli Matisse lui-même de son vivant. Dès la première salle d'ailleurs, on comprend qu'il se cherche. Alors c'est assez normal dans l'apprentissage d'un peintre. Il y a des natures mortes, il y a du nu, il y a des paysages avec des lumières de Bretagne et de Corse qui sont forcément aussi des lumières extrêmement différentes. Il y a un autoportrait très étonnant sur lequel il a la bouche ouverte, il a l'air un peu affolé. Il y a des dessins aussi sur le mur juste derrière, notamment le dessin d'une chocolatière. On peut dire que c'est un touche-à-tout qui cherche sa voie à ce moment-là.
Ben, malgré tout, dans ces salles s'écoulent à peu près 6 années, et je suppose qu'effectivement, oui, il touche un peu à tout, c'est-à-dire qu'il se cherche des maîtres. Il va découvrir Cézanne en 1895 et va acquérir les trois baigneuses que nous montrons dans l'exposition, qui est un prêt exceptionnel du Petit Palais, qui appartenait donc à Matisse, hein, bien sûr, c'est son tableau. Et ce tableau va l'accompagner comme une sorte de talisman, en fait, dès les débuts, une sorte de vade-mecum qui lui permet de ressourcer son art à chaque moment de doute. Il s'en sépare en 1936, quand justement, et le donne au Petit Palais, hein, quand justement il se sent probablement suffisamment confiant dans la dette qu'il a envers le grand maître d'Aix.
Alors ce travail de recherche, vous montrez aussi tout au long de l'exposition, hein, c'est vraiment la des fils rouges, et en particulier dans la salle suivante, lorsque vous évoquez son séjour à Collioure. Alors Collioure, c'est sur la côte méditerranéenne, hein, pas très loin de la frontière espagnole. Et à ce moment-là, Collioure, vous parlez de basculement. C'est un mot très fort, basculement. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Oui, c'est certain. C'est un voyage tout à fait de rupture en réalité. Même si l'été précédent, sous la dictée du néo-impressionniste Paul Signac, Matisse va embrasser la technique divisionniste. Hein, cette technique qui consiste à juxtaposer les petites touches de couleur pure, et donc l'abandon du mélange optique. Enfin, toutes sortes de préceptes qui vont à la fois inaugurer quelque chose de très important s'agissant de la couleur chez Matisse. On est donc en 1904 à Saint-Tropez avec Signac, et en même temps le brider terriblement. Et Henri Edmond Cros, qui est l'un des néo-impressionnistes qui est dans les parages, si je puis dire, lui dit « Vous n'allez pas rester longtemps avec nous ». Et en effet, Matisse, l'année suivante, avec André Derain, va vivre une saison brève, un été fauve, un véritable éblouissement optique qui va, de toute évidence, révolutionner le devenir de la peinture occidentale, rien de moins.
On peut dire que Matisse devient un pionnier du fauvisme.
Ah oui, absolument. Il est plus que pionnier, puisqu'en réalité, les expérimentations, en fait, folles, si je peux dire, sont menées avec André Derain, mais probablement Matisse est-il le plus audacieux des deux, ou le plus convaincant des deux, bien sûr.
Un tableau fauve, écrit-il, et on peut le lire hein, sur les murs de l'exposition, est un bloc lumineux formé par l'accord de plusieurs couleurs, formant un espace possible pour l'esprit, dans le genre, à mon sens, de celui d'un accord musical. Le tableau Les Tapis Rouges, par exemple, Aurélie Verdier, c'est un bon exemple qu'on peut rattacher à cette définition ?
C'est un très bon exemple, même si, effectué en 1906, Matisse a déjà quitté les petits formats fauves de Collioure, et cette idée justement d'un petit bloc architecturé, comme j'aime à dire. Donc c'est encore un peu autre chose. À cette époque-là, le voyage en Algérie lui a fait rapporter, en 1906, lui a fait rapporter des étoffes, des textiles, chose qu'il collectionnera toute sa vie, hein, en amoureux de la couleur et de l'étoffe. C'est un homme du Nord, hein, donc le textile lui parle de bien des manières. Je crois que Les Tapis Rouges de Grenoble, qui est une œuvre somptueuse, parle déjà, malgré tout, d'autres choses. Mais je suppose qu'on est encore dans le fauvisme de Matisse, bien sûr.
Mais c'est vrai que Les Tapis Rouges, donc c'est, vous le disiez, à l'influence orientale, car Matisse est aussi allé chercher l'inspiration et des influences ailleurs, hein, en Orient, hein, avec les mosaïques byzantines aussi, mais aussi dans la stature africaine, Aurélie Verdier.
Oui, absolument. Dans ces années complètement, totalement charnières, expérimentales, je dirais, de 1906, 7, 8, 9, c'est une succession de rencontres avec effectivement l'art extra-occidental. C'est l'Orient. L'Orient lui révèle une dimension insoupçonnée de l'art. L'art byzantin va devenir extrêmement important pour Matisse, une sorte de fixité, hein, d'immobilisme de l'art byzantin, une simplification aussi qui est toute byzantine. Et puis, c'est quand même le moment, il n'est pas seul sur la scène artistique parisienne. Il y a tout de même Picasso, il y a Vlaminck, il y a Derain, il y a tous ces artistes artistes qui découvrent à peu près au même moment l'influence déterminante des arts de l'Afrique de l'Ouest, notamment des artefacts, des sculptures, des fétiches africains, comme on pouvait dire alors.
Et ça se manifeste comment dans son œuvre ?
Alors, c'est très intéressant chez Matisse parce que il n'y a pas une reprise des motifs africains en tant que tels. La seule fois qu'il remploie un petit fétiche du Bénin qui lui appartenait, puisqu'il est il était collectionneur comme je disais, le tableau est parmi les moins convaincants. Il n'est pas dans l'exposition par ailleurs. Mais en réalité, ce qui est beaucoup plus intéressant chez Matisse, c'est quand ce modèle vient imprégner finalement de manière beaucoup plus subconsciente, beaucoup plus oblique, hein, en quelque sorte, sa peinture et sa sculpture. Puisque la sculpture, dans ces années-là, il est extrêmement actif en sculpture dans ces années charnières dont je parle, hein, 5, 6, 7. La sculpture, en revanche, reprend de manière plus directe les canons, les déformations anatomiques de la propre à la sculpture, le synthétisme propre aux figures de la sculpture africaine.
Alors, on continue de cheminer dans cette exposition au centre Georges Pompidou et on arrive à l'année 1911 avec un des tableaux les plus impressionnants, hein, de l'exposition, un grand panneau conservé, je crois, au musée de Grenoble, intérieur aux aubergines. Là, on est dans la peinture décorative. Vous pouvez nous expliquer en quoi ce tableau est absolument remarquable de tout le travail, justement, de Matisse sur la décoration?
La décoration ou l'ambition décorative de Matisse, qu'il place très très haut et probablement au plus haut de la hiérarchie de la peinture, c'est ça qui est important de comprendre avec Matisse, n'a probablement pas commencé en 1911, mais c'est le paroxysme du décoratif, 1911. D'abord parce que cet intérieur symphonique, comme va l'appeler très joliment Alfred Barr, hein, le conservateur du MoMA dans les années 30-40, eh bien cet intérieur symphonique est le seul conservé en France. Et Matisse a tenu expressément à ce qu'il soit conservé en France, comme témoignage précisément de cet achèvement décoratif auquel il tenait tant. Les trois autres, réalisés durant l'année 1911, partent immédiatement après leur réalisation, car ce sont des commandes, chez Stoukine en Russie. Puis ensuite, l'atelier rouge, 1911, où l'atelier de Matisse est littéralement envahi par la couleur rouge, hein, de manière immersive, là aussi partira au MoMA. Matisse savait que un pan considérable, expérimental de sa peinture n'était pas en France. Dès les années en fait 10 et au-delà, en 22, il décide il rachète au Stein, ses collectionneurs tellement audacieux, hein, la famille Stein, il rachète le tableau, ce qui n'est pas banal tout de même, et ensuite, quelques années plus tard, en 22, le donne au musée de Grenoble. Donc ce geste n'est pas anodin.
Alors à quoi ressemble-t-il précisément ce tableau, cet intérieur aux aubergines?
L'intérieur aux aubergines est un retour à Collioure en fait. En 1911, Matisse est à Collioure et c'est tout simplement une scène en fait, c'est l'intérieur de son atelier. C'est une suite d'écran, puisque en fait dans ce tableau on voit une multitude de morceaux de peinture, j'ai presque envie de dire. Alors sont-ils abstraits? Probablement pas, mais en tout cas ce sont de véritables morceaux de peinture en tant que tels. La fenêtre à Collioure de son atelier, un paravent, des cadres vides, et puis presque incidemment, j'ai envie de dire, trois aubergines qui donnent son titre à ce tableau extraordinaire. La chose la plus importante probablement à dire sur ce tableau, c'est que on voit immédiatement, le regard est happé hypnotiquement par un motif, un semis de clématite, de petites fleurs bleues en fait, qui parsèment comme un tapis de mille fleurs, le tableau. Voilà, donc c'est une espèce de saturation de ce tableau dont Dominique Fourcade dit bien qu'il est outrageusement décoratif.
Alors il y a aussi dans cette partie de l'exposition des portraits, notamment des portraits de la fille de l'artiste Marguerite, et moi j'ai été saisi par le portrait que Matisse a peint d'Auguste Pellerin, qui était un collectionneur d'art. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce tableau et plus globalement du Matisse portraitiste?
Ouais, le rapport de Matisse à la figure est tout à fait capital, et c'est dès 1907, 1908 que Matisse va le théoriser, va le comprendre parfaitement. C'est le foyer de son énergie, va-t-il dire des années plus tard. Hein. Le modèle est le foyer de mon énergie, donc c'est absolument capital. Matisse n'est pas un peintre d'invention. Il est un peintre de figures et notamment dans cette décennie absolument éblouissante, un peu austère mais éblouissante, que sont les années de guerre. Et donc autour de 14, à partir de 1910, 11, 12, 13, 14 et au-delà, jusqu'en 17 et son départ à Nice, Matisse va en effet produire dans la solitude de l'atelier, puisque pendant la guerre, ses amis sont partis, beaucoup de peintures de figures. Auguste Pellerin, lui, est un collectionneur de Cézanne, de Renoir, c'est-à-dire autant de figures tutélaires pour Matisse, et ça en dit long, bien sûr, sur le choix du modèle. Et Auguste Pellerin, Matisse va faire deux versions de son portrait, même si je n'en montre qu'une. Une beaucoup plus traditionnelle, qui ne conviendra ni au portraituré, ni à Matisse. Et celle-ci, que je montre, qui est dans les collections du musée, et qui est austère, presque abstraite, en fait, presque non figurative, dans le fond de cette peinture, avec cet homme qui nous dévisage véritablement, à la manière d'un masque africain, là aussi.
Alors, il y a un autre portrait, pas très loin, qui détonne aussi du reste des œuvres, c'est Tête blanche et rose. Alors là, on est clairement dans le cubisme.
Oui, c'est vrai. Matisse va à un moment donné se sentir très clairement un peu menacé, en fait, par les avancées du cubisme et par son ami et rival depuis 1906, qui est Picasso. Donc il essaye, avec ce portrait de sa fille Marguerite, en effet, de regarder du côté du cubisme. C'est à la fois réussi et puis c'est une sorte de ratage merveilleux.
Deuxième mouvement de la sonate pour violon de Ravel, interprété par Jean-Marc Philips Varjabédian dans VMDN sur RFI, avec Aurélie Verdier, commissaire de l'exposition Matisse comme un roman, qui s'est ouverte au public ce matin au centre Georges Pompidou à Paris. Quelques notes de violon, un instrument très présent sur les tableaux, notamment que vous exposez, Aurélie Verdier. Il était mélomane et musicien, Matisse ?
Oui, Matisse avait une pratique, je crois, quasi quotidienne du violon. C'était très important et il s'était toujours dit, en cas de problème de santé ou en cas d'aveuglement, je pourrais toujours me reconvertir. Voilà, donc c'était très important pour lui.
Alors on peut effectivement s'amuser en visitant l'exposition à repérer les différents violons sur les différents hommes. La fenêtre aussi, c'est un motif qu'on retrouve très très souvent. Évidemment, la fenêtre, c'est l'ouverture sur la lumière, forcément.
Bien sûr. Bien sûr, et puis c'est ce que dit Aragon en ouverture de l'exposition, si je peux dire. C'est le début du roman, La fenêtre.
Ouais, et la fenêtre et le violon sont réunis dans Le violoniste à la fenêtre, un tableau de 1918 qui correspond à la période niçoise d'Henri Matisse. Donc retour sur la Côte d'Azur. Là aussi, on peut parler d'un tournant. Quoi, chaque fois qu'il se déplace, en fait, très souvent, c'est justement la recherche de la lumière qui lui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou une nouvelle porte.
Oui, tout à fait. Les voyages sont déterminants pour Matisse. C'est tout de même le premier séjour à Nice et il y restera jusqu'à la fin de ses jours en fait, tout en revenant ponctuellement à Paris, tout en faisant encore quelques voyages, on en parlera peut-être, mais Nice en effet c'est maintenant à partir de 1917 son nouveau lieu de vie et la découverte de la lumière méditerranéenne, va ressourcer son travail en profondeur.
Mais alors en quoi justement les œuvres de la période niçoise tranchent par rapport aux œuvres des périodes précédentes?
C'est une période qui a pu décevoir parce que elle est un retour à une forme de tradition, elle est un retour au modelé de la figure, alors même que Matisse vient de quitter des années totalement expérimentales, comme je le disais, on parlait d'Auguste Pellerin, de ces formes comme des signes en fait. Hein. Là, rien de tout cela, c'est une peinture de chambre, hein, comme le dira très bien Pierre Schneider, hein, le critique d'art maticien, et Matisse va s'employer à problématiser, à s'emparer du problème de l'insertion de la figure dans un intérieur. Et là aussi, c'est très décoratif.
Mais les signes sont jamais loin, Aurélie Verdier, puisque dans les années 30, il va s'attaquer à l'illustration, hein, notamment à travers les poèmes de Mallarmé. C'est un éditeur suisse, Albert Skira, qui lui fait cette commande. On retrouve d'ailleurs au passage la question littéraire qu'on évoquait au tout début de l'émission, et on découvre aussi un travail très très sensuel, très délicat, avec des courbes qui évoquent la rondeur d'un sein, d'une hanche, d'un visage aussi. On est pas loin de l'arabesque là.
C'est tout à fait le mot, et c'est tellement important pour un Matisse qui justement connaît en profondeur les arts de l'islam, par exemple.
Alors c'est vrai que les dessins sont d'une pureté, d'une élégance absolument étonnante. Il y a énormément de dessins. Comment vous les avez choisis justement les dessins dans cette exposition? Parce que souvent les visiteurs regardent surtout les tableaux, les sculptures peut-être un peu moins, et les dessins souvent ils les passent peut-être, ils insistent moins justement. Et pourtant il faut vraiment prendre le temps de les regarder. C'est vraiment impressionnant.
Oui, vous avez raison. Avec Matisse, c'est vraiment le laboratoire en fait du travail. Hein. Le dessin c'est capital. On les a choisis comme contrepoint essentiel en fait aux peintures. Alors ils sont pas toujours en interaction.
Oui,
en
ils sont souvent dans la petite salle derrière, entre quatre
vrai,
murs
dans vrai.
La scénographie.
Ça peut être aussi pour des raisons de conservation, hein, parce que c'est évidemment extrêmement fragile. Les collections du Musée national d'art moderne en fait sont riches de centaines de feuilles, de centaines de dessins, et on les montre extrêmement peu. Donc je crois que le public aussi, la grande découverte de l'exposition, c'est la richesse des collections du Centre Pompidou.
Alors vous mettez aussi en exergue une phrase de Matisse, parce qu'on le disait, hein, les mots sont jamais très très loin de ses œuvres, une phrase assez énigmatique, et je voudrais que vous nous l'expliquiez, Aurélie Verdier. La main indique moins clairement le chemin que la flèche.
Ce que Matisse signifie là, c'est que finalement, une forme de signalétique et par le plus efficacement. Donc c'est vraiment la décennie, je dirais, du signe. C'est la décennie d'une plus grande clarté encore d'écriture. Hein, et quand je dis écriture, c'est volontairement, car Matisse parlait de son dessin comme d'une écriture claire.
C'est-à-dire qu'une courbe, c'est plus efficace, ça dit plus, ça fait plus réagir qu'un tableau.
C'est pas forcément cela, c'est que il peut utiliser tout à fait la question de ce signe, de cette arabesque, de la ligne, dans le dessin. Si vous prenez Le Rêve, qui est cette peinture merveilleuse de 1935, hein, où l'on voit Lydia Delectorskaya, son modèle, son assistante, capturée dans son sommeil, en quelque sorte, on est en plein dans l'arabesque, c'est-à-dire que la composition de ses bras qui enveloppent la dormeuse, en fait, c'est tout le tableau, c'est toute la composition du tableau. Et là, c'est l'arabesque.
Et puis on peut peut-être rapprocher aussi ça de son travail sur la danse. Alors la danse, c'est une œuvre qui ne se trouve pas dans l'exposition, puisque c'est une décoration murale, hein, qui se trouve aux États-Unis, à Marion, près de Philadelphie, sur la côte est de l'Amérique. Vous l'évoquez cependant, Aurélie Verdier, à travers un film. Quelques mots peut-être là-dessus.
C'est un film de famille, si je peux dire. C'est très joli, parce qu'il y a ce caractère intime où en fait Matisse, en train de réaliser ses grands panneaux muraux pour le Dr. Barnes, une version, puisqu'il y en a eu trois pour finir, est filmé en fait par Tini Matisse, la femme de Pierre, son fils, et l'on voit Matisse en train de grimper sur son escabeau, hein, pour s'emparer des grandes dimensions de cette composition, montrant des danseuses, et accompagné de son petit chien avec qui il semble avoir un très bon moment.
Alors comment il voit justement ce mur, cette décoration murale? Parce que là on passe à une autre échelle quand même.
Oui, Matisse aspirait vraiment en fait à se confronter dans ces années-là, en 1930, à la grande décoration passion à ce qu'il appellera la peinture architecturale. Il lui manquait une commande que l'État français n'a pas su lui passer. Hein, il faut que les privés, finalement, très loin, à Philadelphie, lui fassent cette commande pour qu'elle se réalise. Et pour lui, c'est finalement une forme d'aboutissement de ce qu'il a toujours cherché dans de plus petites dimensions. Il avait besoin de ce grand format pour finalement exprimer sa notion de l'espace qui est tellement capitale.
Et à propos de danse, Aurélie Verdier, il faut aussi évoquer ce projet de rideau de scène qui s'appelle « Deux danseurs ». C'est pour un ballet intitulé « Rouge et Noir », chorégraphie de Léonide Massine, musique de Shostakovich, montée à la fin des années 30. Et là, c'est une première approche finalement de cette technique très particulière des gouaches découpées. C'est-à-dire qu'on découpe à même la couleur. Expliquez-nous comment ça marche.
C'est effectivement autour de la danse que les premières gouaches découpées voient le jour. Et les deux exemples que nous voyons dans l'exposition sont, à mon avis, très, très émouvants, fragiles aussi. Hein. Ils sont faits sur calque pour le premier d'entre eux. Le calque est extrêmement fragile. Et surtout, Matisse, à ce moment-là, d'expérimentation de ce médium complètement inédit, punaise encore les petites gouaches découpées peintes préalablement. À ce moment-là, c'est vraiment pour agencer sa composition, pour la réfléchir, et c'est lié au projet de la danse. C'est parce que c'est tellement grand, précisément, cette peinture architecturale, qu'il a besoin de réfléchir en positionnant, en déplaçant les éléments.
Arrive la Seconde Guerre mondiale, Aurélie Verdier, on continue à cheminer à la fois dans cette rétrospective et dans le parcours de l'exposition. Et il se trouve que c'est une œuvre terminée en avril 1940 que vous avez choisi de mettre en couverture du catalogue de l'exposition. Cette œuvre, elle est aussi très très singulière et c'est vrai, je me rends compte là, depuis le début de cette émission qu'à chaque fois qu'on évoque au tableau, on a vraiment l'impression de passer d'un univers à un autre. Cette œuvre, c'est la blouse roumaine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette œuvre-là pour la couverture du catalogue? C'est celle qui résume l'ensemble de l'exposition?
Elle ne peut pas résumer tout Matisse, puisqu'on sait à quel point il a embrassé, on est en train d'en parler, des styles différents. Néanmoins, je crois que c'est l'une des œuvres les plus emblématiques de Matisse, et même si reproduite incessamment depuis sa création en 40, elle a ce pouvoir magnétique, elle a ce pouvoir d'expansion, elle a ce pouvoir chromatique absolument étonnant qui a fasciné les créateurs qui l'ont regardé. S'il fallait la décrire, cette femme qui est Hélène Gallien, un modèle qui ne sera pas resté très longtemps chez Matisse, est représenté avec cette blouse roumaine à la mode alors. Et le sujet du tableau, le titre le dit bien, c'est certainement pas ce visage résumé à quelques signes, on y revient, mais c'est la blouse roumaine, c'est-à-dire que l'élément qui parle, c'est pas la figure, c'est la blouse.
Alors comment est-elle cette blouse?
Cette blouse a des motifs avec des feuilles de chêne rouge, avec des motifs cursifs tracés au pinceau noir, avec des quadrillages orange. La jupe est en corolle, exactement comme la blouse. C'est presque un végétal, en fait. C'est une femme végétale. Et l'ensemble de le tout pris sur un fond rouge, d'un rouge extrêmement vif. Et l'ensemble, en fait, est absolument saturé et tricolore. On ne peut pas s'empêcher de voir, évidemment, le bleu, le blanc et le rouge du drapeau français, bien sûr. Thank you.
Les Trois Lagons, Carla Bley dans VMDN sur RFI, un morceau composé d'après Henri Matisse. Et j'ai lu Aurélie Verdier que Matisse écoutait Duke Ellington, Django Reinhardt ou Louis Armstrong tout en peignant dans son atelier. Et Jazz, c'est aussi le titre d'un livre qu'il va publier en 1947 et qui mélange les mots et les fameuses gouaches découpées qu'on évoquait tout à l'heure. Quelle était l'ambition de Matisse en publiant Jazz?
L'ambition de Matisse, c'était rien de moins que faire un livre. Il en a assez peu fait à cette date-là, en fait. Il répond au souhait de Thériade, l'éditeur qui souhaite Jazz et qui souhaite renouer avec ce livre, avec les manuscrits à peinture médiévaux. Donc il y a cette idée comme ça de texte et d'image qui reprend quelque chose, un modèle évidemment très ancien. Matisse utilise les gouaches découpées pour la première fois, non pas justement comme une aide à la composition, comme on le disait, mais comme un médium à part entière, et ça c'est capital.
Et il y a deux parois dans l'exposition qui forment une sorte de couloir avec de portraits d'eau et d'autres, des exemples de ces gouaches découpées. L'accrochage est absolument magnifique. Comment est-ce que vous avez justement composé cette sorte de haie d'honneur, en quelque sorte, pour le visiteur?
Oui, c'est joli. J'aime à penser que c'est une héraldique maticienne, en fait, déjà. Ça marche aussi comme ça. Cette haie d'honneur, c'est qu'en fait, les planches se déroulent. Elles sont numérotées. Donc Matisse va brasser un certain nombre de thèmes autour du cirque, autour des contes populaires. Ce sont des rêveries, va expliquer Matisse dans son texte. Moi, j'aimais en fait cette haie d'honneur qu'elle mène aux essais autour du mot jazz, parce que Matisse va calligraphier inlassablement le mot jazz au pinceau noir et va même dire à Aragon, maintenant je sais ce que c'est qu'un J. Voilà, il a tellement travaillé les boucles et les arabesques de son mot qu'il le sait par cœur, bien sûr.
Mais dans quelle mesure Matisse se trouve-t-il dans l'esprit de jazz?
Comme vous le disiez, il écoute, il est effectivement un fervent adepte du jazz, et je crois qu'il aimait le rythme, et on le voit bien avec ses planches en fait qui sont syncopées comme dans le jazz, improvisées, ce sont comme des improvisations en fait pour Matisse.
Alors il y a beaucoup d'œuvres effectivement dans cette exposition, et ensuite on arrive peut-être aux grandes œuvres de Matisse, Aurélie Verdier, la chapelle du Rosaire à Vence. Là on est à nouveau du côté de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, une chapelle dominicaine qui est un peu l'aboutissement de ses recherches. Il a dans les 80 ans à ce moment-là. On va l'écouter, Henri Matisse, une interview dans les archives radio de 1950 au micro de Georges Charbonnier.
Depuis très longtemps, je voudrais un peu synthétiser tout mon apport. Et alors s'est trouvée cette occasion, j'ai pu faire en même temps de l'architecture, des vitraux, de grands dessins muraux sur des céramiques, et réunir toutes ces choses-là de façon à avoir une unité parfaite. J'ai même fait une flèche à cette chapelle qui a 12 mètres de haut, j'ai fait une flèche qui a 12 mètres, plus de 12 mètres, et qui n'écrase pas, une flèche en fer forgé, et qui n'écrase pas la chapelle, au contraire, qui lui donne de la hauteur, parce que cette flèche, je l'ai faite comme un dessin que je ferai sur une feuille de papier seulement, c'est un dessin qui monte. De même que pour l'intérieur, pour l'hôtel, j'ai pris le même sentiment. Il faut faire un officiant placé devant le public. Alors il fallait donc décorer l'hôtel d'une façon légère, de façon à ce que l'officiant puisse voir les fidèles et que les fidèles puissent voir l'officiant. Alors il y a une légèreté dans les éléments qui se correspond et qui donne un sentiment de dégagement, d'affranchissement. Si bien que ma chapelle n'est pas frère, il faut mourir, c'est au contraire frère, il faut vivre.
Voilà, il faut vivre, disait Henri Matisse en 1950 à la radio. Alors expliquez-nous, Aurélie Verdier, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette chapelle, et comment Matisse l'a-t-il conçue?
Ben Matisse en fait est approché par son ancien modèle Monique Bourgeois, qui posait pour lui autour de 1943, et Monique Bourgeois va rentrer dans les ordres et elle devient sœur Jacques-Marie, et sœur Jacques-Marie a besoin pour sa confrérie, pour les sœurs et elle-même, d'une nouvelle chapelle. Elle approche Matisse et l'architecture va être confiée bien évidemment à un architecte, mais Matisse va superviser absolument l'intégralité du projet, dessinant tout le mobilier liturgique, les vitraux, les vêtements des officiants, absolument tout. Il comparait la Chapelle de Vence à un livre aux proportions athlétiques.
Mais donc la religion du livre va lui servir en quelque sorte de matrice à l'ensemble de ce projet.
Oui, tout à fait, tout à fait. Là encore, un petit peu comme avec Barnes, il avait besoin de se confronter à nouveau à l'architecture, mais c'est une architecture aux proportions finalement assez modestes. Quand on rentre dans la chapelle, il y a cette idée comme ça qu'on ressent que c'est à dimension du corps. Et en effet, Matisse, ayant travaillé dans son atelier de cimier sur les hauteurs de Nice, a reproduit en quelque sorte les dimensions de son atelier avec la chapelle.
Alors la chapelle joue aussi avec la lumière. Forcément, notamment à travers les vitraux, le bleu, le jaune, le vert. On est dans la suite des gouaches découpées.
Tout à fait. D'abord parce que c'est en gouache découpée qu'il travaille au préalable, avant que ce soit transposé dans le vitrail, bien sûr.
Et puis il y a aussi donc des dessins de l'autre côté, hein, si j'ose dire, qui rentrent un peu comme ça en résonance et avec de la céramique. Donc là aussi, on voit que tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, on le retrouve dans ce bâtiment.
Oui, absolument. Et pour lui, c'est tout à fait capital parce que le noir et blanc, c'est le chemin de croix, c'est sur céramique justement, et c'est cette interaction entre le noir et blanc et la couleur, entre le dessin et la peinture, parce qu'à l'origine, évidemment, ces vitraux sont de la peinture qui est capitale pour comprendre Vence.
Ouais, et puis il y a aussi des vêtements liturgiques. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ils sont accrochés comme ça à plat dans l'exposition. On est dans le noir et blanc.
Oui, j'ai choisi des chasubles, pas seulement parce qu'elles sont issues de nos collections. Ce sont les chasubles de la messe des morts, hein, elles sont noires, ce sont des chasubles de deuil. Mais j'avais, à partir de jazz, dans l'exposition, il y a une volonté vraiment de donner toute sa puissance au noir chez Matisse.
Alors il y a aussi donc le noir et le blanc avec les chasubles, et puis ensuite le bleu et le blanc, si je veux dire, avec les fameux nus bleus. Hein, donc la chapelle a été consacrée, je ne l'ai pas dit, en 1951, et les nus bleus, c'est l'année suivante, hein, c'est 1952. Là aussi, on est dans de la gouache découpée.
Tout à fait, tout à fait. Ce sont quatre gouaches découpées, nous en exposons trois. On sait par Lydia Delectorskaya, qui était donc sa très fidèle assistante jusqu'à la fin, que le premier nu, et on le voit dans l'exposition, en fait, est le résultat de réagencement compliqué de ce nu. Les trois autres qui suivent, sont taillés dans la couleur par Matisse en quelques secondes.
Avec ce jeu, donc, entre les vides et les pleins.
Absolument, qui sont tellement essentiels à Matisse.
Alors, quelques mots, Aurélie Verdier, pour terminer, de l'œuvre qui clôt l'exposition. Alors, elle est magnifique, mais elle est aussi très étonnante quand on regarde le titre de ce tableau. La tristesse du roi, c'est une œuvre monumentale. Alors, quand on lit le titre, on pourrait se dire ça doit être un tableau terrible. En plus, c'est le tableau qui annonce sa mort, puisqu'on est 2 ans avant son décès. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est joyeux, ce tableau, Aurélie Verdier. Il n'est pas du tout sinistre ou ténébreux.
Non, c'est exact. En même temps, il faut tout de même noter la présence de ce noir, de cette ponctuation noire. Mais c'est vrai que c'est l'élan vital cher à Matisse qui transparaît encore dans cette forme d'autoportrait. On l'a souvent dit, mais c'est probablement un autoportrait un peu oblique, un peu en creux de Matisse.
Alors décrivez-nous précisément ce tableau, parce que là aussi, comme dans toutes les œuvres qui parsèment cette exposition, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter, d'observer les détails, de voir comment le tableau a été composé, de s'intéresser à la lumière évidemment, et puis aussi aux couleurs, et singulièrement aux couleurs dans cette œuvre aussi.
Dans cette œuvre de très grande dimension, je dirais même monumentale, en fait, trois personnages semblent comme en lévitation: un roi qui joue de la guitare, ce serait probablement Matisse, en tout cas c'est possible, une danseuse en pleine, un motif évidemment cher à Matisse, et puis une figure assise, et comme le dira Matisse, un vol de soucoupe volante parsème la toile, éminemment la toile, la gouache découpée dans un chromatisme absolument d'une audace inouïe là encore.
Et c'est ensuite donc que le visiteur quitte l'exposition avec des images évidemment plein la tête, au-delà justement du roman, et c'est vrai que vous nous racontez l'histoire d'un peintre et l'évolution, voilà, quel est le réel fil rouge finalement que l'on peut retenir en sortant de cette exposition de l'œuvre de Matisse? Qu'est-ce qui ordonne tout ce que vous nous avez montré?
Ce qui ordonne probablement l'exposition, c'est la conception unique de Matisse de ce que peut être une peinture quand elle est décorative. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand elle met le spectateur au centre, quand elle remet en fait le spectateur comme profondément actif dans la vision de la peinture.
Alors il faut réserver pour aller voir cette exposition. Aurélie Verdier, en période de Covid, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors l'exposition vient de s'ouvrir, elle s'est ouverte ce matin. Bon, j'imagine que d'un point de vue purement commercial, c'est pas une bonne nouvelle, le Covid, pour vous, mais pour le visiteur, c'est intéressant parce qu'il aura peut-être plus le temps de s'apesantir devant les œuvres et il aura aussi la possibilité de profiter comme ça de l'exposition. Comment est-ce que vous gérez justement le risque Covid quand vous organisez une telle exposition?
C'est un petit peu difficile pour moi de répondre à cela parce que je suis sur d'autres problématiques, mais en réalité, je sais que les jauges sont réduites, forcément, mais je dirais que c'est aussi un bien puisque ça permettra de manière totalement inédite quand même pour cette grande exposition d'être vu dans un grand confort de visite. Et ça, c'est inestimable.
Ouais, donc il faut réserver sur le site internet du Centre Georges Pompidou. Merci
tout
beaucoup.
À fait. Merci à vous.
Aurélie Verdier, l'exposition Matisse comme un roman à découvrir donc au Centre Georges Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 22 février. Et bonjour Alain Pidou.
Bonjour Jean-François. Bon.
Vous êtes bien là, Alain.
Oui, bonjour,
et on va commencer par l'absent.
Et bonjour Aurélie Verdier.
Voilà, on va commencer par l'absent. Et la voix de Nawel Ben Krayem, une artiste née en Tunisie et qui vit en France.
Oui, une femme qui s'est longtemps réfugiée dans sa culture, non pas matissienne mais tunisienne, comme s'il lui fallait du temps pour assumer qu'elle avait un vécu de française et qu'elle avait une légitimité à donner son point de vue dans cette société.
Et elle chante en français et en arabe.
Et elle avoue ne pouvoir faire sans l'arabe. Il est important pour elle que cette langue soit présente, ne serait-ce que pour l'hybridité de ses chansons et puis surtout parce que ça a du sens. Elle remarque qu'ils sont tellement nombreux à la porter qu'elle fait partie de l'histoire de la France, mais n'en oublie pas pour autant sa Tunisie fornie chérie. Comme elle l'appelle, traduction ?
La Tunisie fornie, c'est un peu la Tunisie swag, la Tunisie solaire, la Tunisie moderne, la Tunisie post-révolution 2.0 avec plein de geeks qui s'y connaissent hyper bien en Facebook, Insta, Snap et j'en passe.
Danden est le quartier de Tunis où Nawel Ben Krayem a grandi. Ils ont été nombreux à lui parler de la chanson qu'elle lui consacre après les concerts. Que lui ont-ils dit ?
Je pense que ça les faisait marrer parce que je la rebaptise Danden City et c'est une rythmique un peu country du bled et on s'attend pas forcément à parler de l'exil ou des souvenirs d'enfance d'une façon comme ça un peu décalée. Et là j'en parle comme si justement en arabe je dis maman, qu'est-ce que je vais raconter à ma famille, j'ai oublié ma langue, comme si mon départ, mon voyage m'avait rendue californienne.
Krayem, Danden City sur RFI, et ce disque, Alain, il a été en partie inspiré par l'écrivaine Toni Morrison.
Et son livre Délivrance, le 11e pour la romancière, Nawel qui a grandi à Tunis dans une ambiance plutôt ouverte sur les livres, le militantisme, nous explique d'abord ce qui l'a séduit chez Toni Morrison, puis dans cet écrit.
Toni Morrison, c'est une de mes écrivaines préférées. Je trouve que ses personnages sont toujours habités. Elle a l'art d'attraper l'âme humaine et en même temps, en souterrain, il y a toujours une vraie conscience sciences sociales et elle est toujours du côté des dominés. Et du coup, son engagement mêlé à cet art vraiment du roman font que c'est une de mes stars auteurs dans son œuvre en général. Et puis un mot sur Délivrance, bah, c'est un roman qui est particulièrement sombre, mais avec cette fin qui s'ouvre quand même sur une naissance, comme si la vie triomphait toujours. Et je crois que mon album, il a des endroits musicalement ou dans les thématiques de désillusion ou de quelque chose d'un peu sombre, mais il y a quand même cette idée que la vie l'emporte aussi.
Noël Ben Kraïm sur RFI, une artiste touchée également, Alain, par le traumatisme qu'a vécu le Liban cet été.
Oui, Jean-François, deux violentes explosions le 4 août dernier. Noël a tout de suite offert cette complainte, l'Ebes, au peuple libanais.
Elle parle vraiment des ressources et de la résilience qu'on peut avoir pour se relever après un moment où tout est défait. Et à l'échelle intime ou collective comme après un attentat ou une explosion, intime comme après un drame, un accident. Et ce truc de, bah, on sent que c'est brisé en un quart de seconde, mais on a quand même la conscience très épaisse d'être en vie et d'avoir la chance d'être en vie, donc ça va. Cette espèce de clown triste, quoi, entre la joie et la grâce d'être là et en même temps la tristesse infinie du drame. Voilà, c'est un peu ça, cette chanson.
On vient d'une partie du monde où on connaît sa chance du côté des vivants, vu comme on gomme, on efface femme, homme et enfant en un instant. Alors on laissera des traces contre le temps qui trépasse, des chansons ou des gosses, ça aide à battre l'angoisse, ça maintient nos âmes à la surface. Et les bœufs,
les baisses. Et puis Alain, comme cela vous arrive de temps en temps, vous avez proposé à Noël Ben Kraïm des citations à partir du titre de son album Délivrance. Donc ici, vous avez choisi...
Alors, citation qu'elle pourra faire sienne ou pas, j'ai choisi « Tout ce qui isole délivre », c'est Régent du Charme, un écrivain québécois. « Créer, voilà la grande délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la vie légère », c'est Nietzsche. Ou enfin « Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi », Albert Einstein.
Ouais, bah, j'aime bien la façon dont vous les avez agencés. Je suis la plus proche du 3, mais je trouve que pour aller vers le 3, se délivrer son petit moi, il faut passer par la phase isolée. Puis non, j'aime bien créative. Et puis enfin, du coup, on est transcendé et délivré de son moi.
L'album est sorti chez Piaf, Délivrance, signé de Noël Ben Kraïm, qui sera en concert le 8 novembre à 19h à l'Institut du Monde Arabe sur les toits.
Exactement.
Et puis pour un showcase le 28 octobre au Festival Arabe.
Non, le 28 est annulé.
Ah, le 28 est annulé. Mmh. Ah bah voilà, bah, c'est dommage, c'est conséquence du Covid une de plus. Merci en tout cas à vous, Alain.
Merci.
Dans un instant, le journal sur RFI, à demain avec Nicolas Maury pour son film Garçon Chiffon. Et vous m'en direz des nouvelles.